9h en temps universel, 11h à Paris, vous écoutez RFI. L'information internationale, c'est en compagnie d'Olivier Sherman. Bonjour Olivier.
Bonjour Namouri, bonjour à toutes et à tous. Giorgia Meloni en déplacement aux États-Unis. La dirigeante italienne rencontrera Donald Trump à la Maison-Blanche pour une mission délicate sur les droits de douane. Explication à suivre de notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. Le 17 avril 1975, il y a 50 ans jour pour jour, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmers Rouges. Le début d'un génocide qui a fait 1 700 000 morts. Nous entendrons le réalisateur franco-cambodgien Ritipan, un survivant des massacres qui n'arrive toujours pas à pardonner. Au Mali, le groupe minier canadien Barrick Gold contraint de fermer ses bureaux à Bamako. Un arrêt qui risque de fragiliser l'économie du pays, un des principaux producteurs d'or en Afrique. Agnieszka Kumor reviendra sur les raisons de cette fermeture. Enfin, en football, on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. L'Inter Milan affrontera Barcelone et le PSG sera opposé à Arsenal. Les Anglais qui ont sorti le tenant du titre, le Real Madrid, peut-être la fin du règne des Madrilènes, nous dira Thomas de Saint-Léger. Giorgia Meloni s'envole donc pour Washington avec l'idée de jouer les intermédiaires des deux côtés de l'Atlantique. Une mission délicate pour la souverainiste italienne, première dirigeante européenne à rencontrer Donald Trump depuis le début de cette guerre commerciale. Un déplacement censé débloquer le dialogue sur les droits de douane avec son allié conservateur, mais qui suscite les critiques de l'opposition en Italie. À Rome, Blandine Hugonnet.
Avec sa casquette de négociatrice direction la Maison-Blanche, la dirigeante d'extrême droite italienne irrite ses opposants. Si officiellement les mots d'ordre de ce tête-à-tête avec Donald Trump sont dialogue et apaisement, et si le déplacement de Giorgia Meloni est coordonné par Bruxelles pour parler au nom des 27, la gauche italienne fustige une souverainiste qui fait cavalier seul, la patronne du Parti démocrate Elie Schlein.
Il ne faut pas que Trump pense pouvoir négocier pays par pays. On attend de notre gouvernement qu'il travaille dans l'intérêt commun européen, parce que seulement en tant qu'union de 500 millions d'habitants, nous aurons la force de réagir.
Débloquer les relations entre les deux continents, du moins convaincre d'ouvrir une table de négociation avec Bruxelles sur les droits de douane. Voilà l'objectif de ce rendez-vous avec Donald Trump pour Giorgia Meloni. C'est une des rares en Europe à entretenir un lien privilégié avec le conservateur américain. Elle va jouer les petits soldats qui se plient aux caprices de Donald Trump, rétorque le chef du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte.
Meloni va à Washington pour prendre évidemment ses nouveaux ordres. Elle reviendra avec de nouvelles commandes trop chères d'armes et de gaz américains. Alors que l'Italie est au bord du gouffre, ce gouvernement manque de courage.
Alors que la botte pas épargnée par le protectionnisme américain risque gros, Giorgia Meloni pourrait proposer à Donald Trump de mettre les tarifs douaniers à zéro. Mais en Italie, parti et presse de gauche ne croient pas à un miracle de l'italienne à Washington. Blandine Hugonnet, Rome, RFI.
Il y a 50 ans exactement, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmers Rouges. L'ouverture d'une période d'une violence inouïe sous le règne de Pol Pot et de Lang Kar, le parti communiste du Kampuchea. La gigantesque réduction à marche forcée du pays a débouché sur un génocide faisant plus 1,5 million de morts. C'était donc le 17 avril 1975. Ce jour-là, Ritipan s'apprêtait à fêter ses 13 ans. Sa famille a été décimée, lui survivra à l'horreur et deviendra réalisateur de fiction, mais surtout de documentaires. 50 ans plus tard, le pardon est-il possible? Arnaud Pontus a posé la question à Ritipan.
Je pensais qu'au début, peut-être une génération, c'est bon. Mais en fait, on est aux deuxième génération.
Et en fait, toujours pas.
Et toujours pas. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à parler de ce sujet-là d'une manière calme, précise. Il faut pardonner, oui, si on arrive, c'est bien, mais je crois que le pardon est toujours supérieur que vivre avec une sorte de revanche, envie de revanche, d'une sorte de tristesse dans le cœur. Mais le pardon, c'est super compliqué. Moi, j'arrive pas, hein. J'espère que j'arriverai un jour. Je travaille sur moi-même. Il y en a qui peuvent oublié et je le souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec. Puis il y en a qui ne peuvent pas. Et à ceux qui n'en peuvent pas, il faut les aider. Il faut les aider par des films, par les livres, par le dialogue, par l'empathie. C'est très important, j'insiste beaucoup sur ça. Ça permet à chacun de vivre et finir leur vie plus pacifiée.
Le réalisateur franco-cambodgien Riti Pan, grand invité international de RFI ce jeudi avec Arnaud Pontus. Interview à retrouver en intégralité sur le site de la Radio du Monde, www.rfi.fr. La guerre entre la Russie et l'Ukraine au cœur de discussions à Paris. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé en France ce jeudi. Marco Rubio va rencontrer Emmanuel Macron alors que les négociations initiées par Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu général en Ukraine piétinent plus de 3 ans après le début de cette guerre en février 2022. Le bras droit du président Volodymyr Zelensky est lui aussi en France. Il aura une série de rencontres bilatérales et multilatérales avec les pays alliés de Kiev, la France donc, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Des réunions avec des représentants des États-Unis sont également prévues. Et sur le terrain, la guerre ne faiblit pas. Des frappes russes ont fait 3 morts et au moins 28 blessés, dont 4 enfants, dans la nuit à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Une frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des personnes déplacées dans la bande de Gaza fait au moins 16 morts, une annonce de la défense civile palestinienne. 23 personnes ont aussi été blessées dans cette frappe menée par 2 avions de chasse israéliens près de Khan Younes dans le sud du territoire palestinien. Serait-ce le clap de fin pour Barrick Gold au Mali? Il est trop tôt pour le dire. Le groupe minier canadien a été contraint de fermer ses bureaux à Bamako. En cause, un bras de fer financier entre l'industriel et le gouvernement malien de transition. L'économie du pays, l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, risque d'être fragilisée par cette décision. Agnieszka Kumor.
Ce sont les services fiscaux maliens qui ont fermé les bureaux de Barrick Gold à Bamako, officiellement pour non-paiement d'impôts. En 2024, le pouvoir militaire malien a adopté un nouveau code minier, avec pour objectif d'augmenter les redevances. Selon Barrick Gold, 85 millions de dollars auraient déjà été versés à l'État malien. Le conflit avec l'industriel canadien dure depuis des mois. Au cœur de la dispute, Loulo Gounkoto, l'une des plus importantes mines d'or au monde, détenue à 80% par le groupe canadien et à 20% par l'État malien. Mais les activités du site ont été suspendues après la saisie en janvier dernier de 3 tonnes d'or par les autorités du pays. 4 employés maliens de la compagnie sont en détention et des mandats d'arrêt ont été émis contre ses dirigeants pour blanchiment de capitaux.
À l'occasion du bicentenaire de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, Emmanuel Macron va reconnaître aujourd'hui la force injuste de l'histoire qui a frappé ce pays des Caraïbes dès sa naissance en tant qu'État. Haïti qui a dû payer une indemnité colossale voulue par la France en échange de son indépendance. Le président français va aussi lancer un travail de mémoire avant de trancher une éventuelle réparation. À suivre dans la tranche Amérique à 15h10 heure de Paris, une page spéciale Haïti. Vous l'avez suivi sur RFI dans notre soirée spéciale hier, Ligue des Champions, le Real Madrid n'aura pas fait sa remontada. Le tenant du titre prend la porte en quart de finale, éliminé par le club anglais d'Arsenal, vainqueur des 2 manches 3-0. Une défaite logique, Thomas de Saint-Léger qui signe peut-être la fin d'un cycle.
Pour une soirée, le stade Bernabéu chante en anglais. Avant même la fin du match, les supporters d'un Real en panne d'inspiration commencent à s'éclipser, résignés. Déçu.
C'était impossible, il fallait y croire, mais c'était trop dur. Ça me rend un peu triste, ce sentiment d'impuissance, cette impression qu'on ne pouvait pas donner plus.
Et c'est rare, au Real Madrid, on est habitué à l'excellence, à l'exceptionnel. Pour la première fois depuis 5 ans, le club aux 15 Ligues des Champions est absent au rendez-vous du dernier carré. Alors, fin de cycle ou pas, le gardien de but, Thibaut Courtois.
Non, je crois pas. Je crois qu'on a beaucoup de jeunes, donc fin de cycle, il n'y a pas. Il y a toujours des changements. Dans les étés du foot, c'est logique, c'est une cycle qui commence et je crois qu'on peut encore améliorer, mais comme ça, chacun doit être autocritique avec lui-même.
Lui peut l'être sans rougir, le Belge est l'un des rares au niveau cette saison. D'autres ont déçu ou brillé par intermittence et l'entraîneur Carlo Ancelotti n'aura pas su cette fois porter, transcender son groupe.
Par rapport à l'année dernière, on a manqué d'attitude collective, mais il n'y a pas d'équipe invincible et maintenant nous devons gérer cette déception parce que les matchs qui viennent sont importants.
Très important même, il faut rattraper le rival Barcelone en championnat et surtout gagner face à ce même Barça la finale de Coupe du Roi à la fin du mois. C'est ça, ou la fronde d'une saison blanche impensable au Real. Thomas Saint-Léger, Madrid RFI.
Et Arsenal affrontera le PSG en demi-finale de cette Ligue des Champions. Tout de suite, c'est priorité santé, gros plan sur les allergies. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Olivier Sherman et merci.